Bonsoir, Kiola, good evening, vous êtes sur Amuse-Gueule, une émission ce soir placée comme de coutume sous le signe de la jeunesse et de la beauté, puisqu'autour de cette table se trouve le maître des manettes, le pusher de boutons, Yvan.
Bonsoir.
Bonsoir Yvan. Et Fred, Fred, bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir nous parlerons de Virginie Despentes, et plus particulièrement de Vernon Subutex, qui servira de fil musical à toute cette soirée. Nous parlerons de suffrage 125, de femmes, beaucoup de femmes ce soir, puisqu'il sera aussi question de Béatrice Tinsley, une astronome néo-zélandaise, et de sa consœur Jocelyn Bell, elle aussi astronome.
Et anglaise.
Et anglaise, voilà. Les deux.
Non. Oui, en fait, elles sont toutes les deux anglaises, mais il y en a une qui a vécu en Nouvelle-Zélande et l'autre pas. Voilà.
Très bien.
Très bien pour cette précision essentielle. Et nous parlerons aussi de Bob Dylan. Mais tout de suite, donc j'ai dit que Vernon Subutex servirait de lien musical à cette émission. Nous allons écouter.
Qui est un livre de
Virginie Despentes où on y écoute beaucoup de musique.
Super.
Dont celle-ci.
Elle est droite au hasard. Des femmes sans
Si vous n'étiez pas réveillé, maintenant vous l'êtes. Hein.
On l'est surtout quand on s'est réchauffé là d'un petit débat. Faut-il ou non tolérer le retour de Bertrand Cantat sur scène. Je ne sais pas si vous avez suivi. Récemment, il a chanté dans quelques festivals qui ont été suivis par un début de tournée qui a été avorté face aux protestations que soulevait chacun de ces passages publics. Mmh. Et là-dessus, les avis sont partagés. Je vais peut-être émettre le mien au début. Oui, je suis partagé dans le sens que je pense que il faut toujours faire la part entre l'homme et son œuvre. Il ne faut pas brûler les livres des salauds ou les censurer. Je pense que Bertrand Cantat, enfin, je connais pas l'homme. J'émets des critiques sur lui du bout des lèvres. Enfin, j'ai pas aimé son.
Il a tapé sur plus qu'une femme. Il en a tapé plus qu'une, au moins.
Ouais. Et sa façon de s'en défendre
est lamentable.
Ouais. Notamment au sujet de Marie Trintignant, en disant que s'ils étaient dans une relation fusionnelle et passionnée, n'explique en rien.
Il l'a laissé pourrir en bas d'un escalier pendant 6 heures avant d'appeler quoi que ce soit.
Et par la suite, à chaque interview, il pleurnichait sur son sort, le sort qui lui était fait. Et donc, je ne sais pas.
Je sais pas, ça m'étonne qu'il y ait encore des gens qui fassent de la musique avec lui, par exemple.
Ils font de la musique avec le musicien.
Ouais, mais j'aurais...
Pas avec le fracasseur de femmes.
Ouais, mais j'aurais du mal, quoi.
Oui. Non, de la même façon, pour moi, je n'irai pas à ses concerts, mais j'écoute toujours sa musique avec plaisir.
Moi, j'y suis allé avant en Noir Désir, il y a... 25 ans.
Ah ouais, mais c'était avant, qu'on sache.
C'était avant. C'était bon, hein. Bonne musique.
Mais on critique pas le fait que c'est un bon musicien ou pas, mais c'est
non, bien
mais
sûr.
L'humain est.
Je sais pas si j'y retournerai maintenant.
Voilà. Ouais. Moi, j'y reste certainement pas le voir.
Enfin, l'humain, il est plusieurs choses, on est plusieurs choses.
Mais tu vois, par exemple, il y a aussi quelque chose qui est différent, c'est qu'à la limite, tu écoutes ce qu'il a déjà fait, ok. Mais lui permettre de continuer à s'exprimer, ça m'énerve, quoi. De continuer à ce qu'il vive qu'il aille en tournée et tout ça, qu'il vive une vie normale, ça m'énerve un peu.
Son argument qu'on peut entendre est qu'il a payé sa dette à la société.
Ouais, de manière très minimale quand même. Hein.
Oui, il s'en tire bien.
Il s'en tire quand même vachement bien. Hein.
Ouais.
Je veux dire, il y a des gens qui ont été en prison pour plus longtemps, pour moins que ça.
Oui,
il a eu 6 ans, c'est ça ?
7 ans, mais je crois que la loi lituanienne est plus léniente que la loi française en pareilles circonstances. Et il a été libéré de façon conditionnelle à la moitié de sa peine. Je crois qu'il a passé 3 ans et demi en prison.
Je veux dire...
Oui, pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Oui, alors que ce n'était pas sa première fois. Ce n'était pas un coup de folie.
Il y a une non-assistance à personne en danger aussi, quand même. Enfin, je veux dire, bon, bref, on va pas. Il a été jugé, il a été puni, et on n'est pas juge.
C'est vrai. Bon, enfin, bref, ça fait partie du soundtrack de
Vernon Subutex. Alors, je sais pas si on dit Vernon ou Vernon, parce que tout ça a été écrit. Ça ne va pas le rester longtemps, parce que une adaptation sous forme de série télévisée est en projet. Ça va normalement sortir en février 2019 sur Canal+, avec Romain Duris dans le rôle titre. Je viens d'acheter le second volume de la trilogie en anglais.
C'est tout petit, hein.
Non, ça c'en est un autre. Celui que j'ai dans la main, c'est un essai sur le féminisme qui s'appelle King Kong Theory, qui est très très bien. J'en parlerai un petit peu après. Mais je vais commencer d'abord par Vernon Subutex. Donc c'est une trilogie qui a été publiée entre 2015 et 2017. Le troisième volume est sorti il y a quelques mois. Le deuxième volume, dans sa version traduite en anglais, il y a quelques semaines. Il y a un très bel article et une interview, si vous ne maîtrisez pas très bien le français, qui vient d'être publié dans le Guardian il y a 2 semaines, qui est toujours disponible en ligne. Donc allez voir Virginie Despentes. Alors de quoi ça parle, Vernon Subutex? C'est un roman. Elle s'est dite inspirée de la forme de la série télé. Donc c'est une sorte de roman chorale avec beaucoup de personnages dont les destins se croisent et qui prennent leur indépendance plus ou moins longtemps pour disparaître et réapparaître un peu comme chez Balzac aussi. Donc qui est Vernon Subutex? C'est un disquaire qui fut très influent dans les années 90 et sa petite entreprise Pronlo avec les Napster et tout ça.
Je m'en rappelle plus. Ouais.
Et ses allocs, elle aussi, s'épuisent. Et le voilà crêché sur le canapé des copains avant de se retrouver complètement à la rue, SDF. Et donc, l'histoire de quoi s'agit-il? Juste avant de se retrouver à la rue, il avait passé la nuit chez un pote qui s'appelle, dont le nom de scène est Alex Bleach, qui est la star de la chanson française du moment, qui est mort peu après d'une overdose, et qui là chez lui s'auto-interview devant une caméra et fait des révélations qui vont sûrement faire du mal à beaucoup de personnes. Donc c'est tout un petit monde qui se retrouve à la recherche de Vernon Subutex, parce qu'il serait détenteur de cette fameuse cassette, cette cassette scandaleuse. Il est SDF et à la rue il change, il devient une sorte d'autre homme, il a une sorte de transformation mystique, et par exemple il ne supporte plus d'être enfermé entre quatre murs. Il erre, il hante les buts de Chaumont, et autour de lui se forme une sorte de petite communauté qui fait penser aux communautés de premiers chrétiens. Et c'est là où je me suis arrêté, et c'est le troisième tome m'attend. Faut que je le commande à ma mère. Donc non, mais l'écriture est très 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 forte. Elle est très forte. C'est de Virginie Despentes. C'était pas le premier roman que j'avais lu d'elle. J'avais commencé par ces jolies choses qui m'avaient pas beaucoup impressionné. Je trouvais le script un peu artificiel.
Je l'avais lu aussi. J'ai toujours le livre d'ailleurs.
Ces histoires de jumelles complètement opposées qui échangent leur vie. J'avais trouvé ça un peu mauvaise série B. L'écriture bien, parce que elle est puissante, quoi. Elle a du souffle. Alors, rien que Vernon Subutex, en tout ça doit faire 1500 pages. C'est très puissant. Elle tient la longueur. Ça se lit. En fait, ça se lit comme on pourrait dévorer une série télé. C'est comme le binge où tu passes tout
binge
tout
reading.
Ouais, binge reading, c'est ça.
Le genre de livre tu lis toute la nuit ou quoi?
Ouais, ouais. Et c'est très fort, c'est très punk, c'est très punchy, et c'est en même temps habité d'une grande douceur. C'est ça qui est étonnant. Quand je l'avais lu au début, elle m'avait fait penser un peu à Gérard Depardieu dans ses premiers rôles. C'est une sorte de
les valseuses.
Ouais, c'est une brute au grand cœur, et elle aime comme tout bon romancier, ces personnages, même les plus méprisables, elle leur donne vie. On va peut-être passer un autre extrait musical avant de passer à son essai King Kong Theory sur le féminisme. On va écouter quelque chose de plus doux. Bah tiens, Camille qui reprend Que je t'aime de Johnny.
Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, et la lumière dessine sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand ta bouche se fait fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'ont ce pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite.
Camille.
Après la fureur de Noir Désir, la douceur de Camille.
Avec de la flûte traversière derrière,
qui,
c'est ça?
Qui nous caresse avec ses cheveux. Oui.
Sympa.
Oui. La reprise est bonne, non?
Ouais. Hein? Ah, ça marche.
C'est différent quand même.
C'est différent, mais c'est la même chose.
Ouais, ouais.
C'est les opposés qui se touchent.
Voilà, donc c'est extrait de la. De la bande-annonce, enfin pas de la bande-annonce, mais du soundtrack de...
Ça apparaît dans le roman, alors c'est soit passé dans un café où ils se retrouvent, ou alors ils l'écoutent sur leur iPod ou autre chose. Où ils vont, ouais.
Que je t'aime.
Oui, non, c'est ce bonhomme qui avait eu la riche idée de faire une playlist sur Spotify avec tous les morceaux cités dans la trilogie, et c'est l'un d'entre eux. On en passera d'autres d'ici la fin de l'émission. Quelques mots avant d'en finir avec Virginie sur King Kong Theory, qui est un essai qui est disponible en poche dans la collection du livre de poche, qui est très très bien et que je recommande. Elle dit des choses très très intéressantes sur ce que c'est que d'être femme, sur la prostitution, sur le porno notamment.
Le quatrième de couverture vaut le détour déjà. Ça donne envie. Hein.
Vas-y.
J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre, je n'échangerai ma place pour aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire.
Ça ressemble un peu au speech de Coluche quand il s'était présenté le début.
Mais moi, ça me donne envie de lire.
Ah non, mais ça, je pense que ça te plairait. Elle dit des choses très drôles sur, enfin très drôles. Il y a aucune nouveauté là-dedans, mais le dit avec conviction et force sur la prostitution qu'elle distingue à peine du mariage d'agrément. Elle s'offusque, comment on peut dire tellement qu'elle s'offusque parce que c'est des pentes et pas femme à s'offusquer, plutôt elle s'énerve que des femmes entretenues via le contrat marital ou qui après un divorce aient touché la grosse galette, lui explique que la prostitution soit une mauvaise chose pour les femmes. Elle n'arrive pas, elle peut pas le comprendre. Elle rejette notamment le fameux argument en faveur de l'abolition de la prostitution, selon lequel aucune femme ne ferait ce métier si elle en avait vraiment le choix. Et donc à Virginie de répondre et l'épileuse de chez Yves Rocher, c'est par vocation esthétique qu'elle perce les points noirs à longueur de journée? Non plus. Elle dit que si les femmes bien entre guillemets sont en majorité contre la prostitution, c'est parce qu'en fait
elles
en craignent la concurrence. La concurrence. Si la prostituée faisait son boulot dans des conditions décentes, avec des droits et des
paies
au moins égales à n'importe quel autre employé. Ouais.
C'est le cas en Nouvelle-Zélande. Hein. La prostitution,
c'est le cas en Nouvelle-Zélande.
C'est légal.
Ouais.
Et aux Pays-Bas, il y a même un syndicat.
Ah ouais.
Je crois que c'est aux Pays-Bas. Ouais.
Et ça fait même partie des critères d'immigration. La prostitution en Nouvelle-Zélande.
Oui, je crois, ouais. je crois que tu gagnes des points.
Ouais.
Tu coches des cases.
Bon, pour les candidats.
Il y a des métiers à demander.
Ouais, il n'y en a pas assez.
Il y a même un certificat. Hein. C'est un truc sérieux, NCA ou je sais pas quoi, au niveau.
Non,
c'est sérieux, hein. Je l'ai vu dans le journal, vous pouvez regarder.
Quoi, hein. pour rendre les grands-parents fiers?
Ah, oh, bah ça, c'est autre chose. En tout cas, c'est. C'est un sujet que vous pouvez rechercher dans les dossiers de l'immigration.
Mais en parlant des, ça me fait penser, enfin, en parlant des femmes bien pensantes, il y a quelques femmes qui ont voté pour Trump, et certains analystes disent que c'est justement les femmes bien pensantes qui avaient peur qu'une femme soit élue présidente.
Oui, c'est...
Et de perdre cette position de femme entretenue.
Oui, mais il y a...
Ce qui fait peur quand même, hein, parce que... Enfin, bon, bref.
Parce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, il y a eu combien ? Trois femmes premières ministres. Il y a eu Jenny Shipley, il y a eu...
Mais que deux élues, hein. La première, elle n'a pas été élue. Elle a remplacé...
Shipley ?
Ouais, elle n'a pas été élue.
Et après, il y a eu...
Et puis ça a été Hélène Clark et Jacinda. Ces deux-là ont été élues, mais les deux, mais la première pas.
Et bon. Tu parlais donc que la Nouvelle-Zélande, c'était... premier pays à avoir donné le droit de vote aux femmes.
Oui, mais là, on s'éloigne de mon sujet.
Vas-y.
donc Virginie Despentes ne voit pas la différence entre une prostituée et une femme que le sexe n'intéresserait pas, mais qui en tirerait parti. Pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, si un système marche, c'est parce qu'il y a des gens qui en tirent bénéfice. Et ce système inégalitaire entre femmes et hommes, il y a une portion de femmes qui en tirent bénéfice.
Tout à fait.
Autre argument contre la prostitution qu'elle démonte, c'est que, et qui est souvent mobilisé par ceux qui veulent l'interdire, c'est la condition de beaucoup de prostituées, notamment émigrées, qui sont exploitées par des souteneurs dans des conditions dégueulasses. Et elle a dit, ah oui, mais si on va par là, autant interdire l'industrie de la mode, du textile, au motif que des enfants au Bangladesh travaillent dans des sweatshops. On peut écouter ça, on peut l'entendre. Et elle dit des choses aussi que j'ai trouvé intéressantes, même bouleversantes sur le viol dont je vais pas m'épandre ici parce que c'est quelque chose d'intime. Elle a été elle-même victime d'un viol à l'âge de 17 ans. Et elle dit des choses dans ce roman qui, je pense, sont importantes, mais qui sont dites sous le signe de l'intimité, je pense de femme à femme. Mais une chose est sûre, c'est que si quelqu'un dans mon entourage était victime d'un viol, je recommanderais cette lecture. Je pense que ça peut aider.
Elle a abordé le sujet de façon assez brutale dans son livre Baise-moi.
Oui,
film, ça, c'est des scènes qui sont assez dures quand même.
Mais c'était un roman libérateur pour elle. Mmh. Et c'était son premier. Mmh. Et quelle claque.
Donc il y a des scènes dures dans le film.
Ouais, dans le film qu'elle avait co-réalisé avec Coralie Trinity, je crois, qui était une ancienne actrice pour nous.
Ouais.
Et qui jouait dans le film aussi. Et donc oui, lisez aussi King Kong Theory, qui est un bel appel à l'émancipation, à l'affranchissement des femmes, dont, dit-elle, tout le monde a à gagner, homme comme femme, parce que c'est pas facile d'être un homme. C'est pas facile d'être un homme selon les codes anciens, selon les codes du patriarcat. Elle s'en explique à la page 28. Elle dit: Car la virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. Qu'est-ce que ça exige, au fond, d'être un homme, un vrai ? Répression des émotions, taire sa sensibilité, avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité, quitter l'enfance brutalement et définitivement ? Les hommes enfants n'ont pas bonne presse, être angoissé par la taille de son machin, savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre, ne pas montrer sa faiblesse, museler sa sensibilité, s'habiller dans des couleurs ternes, porter toujours les mêmes chaussures pataudes, ne pas jouer avec ses cheveux, ne pas porter trop de bijoux, ni aucun maquillage, devoir faire le premier pas, toujours, n'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme, ne jamais demander d'aide, devoir être courageux, même si on n'en a pas envie, valoriser la force, quelle que soit son caractère, faire preuve d'agressivité, avoir un accès restreint à la paternité, réussir socialement pour se payer les meilleures femmes, craindre son homosexualité car un homme, au nom, un vrai, ne doit pas être pénétré, ne pas jouer à la poupée quand on est petit, se contenter de petites voitures et d'armes en plastique super moches, etc., etc., etc. Je suis sûr que Fred, tu vas ajouter quelque chose.
Non, j'apprécie.
Tu apprécies ?
Ouais.
Eh bien, je vais te le prêter. Et je ne prête jamais mes livres. Et je vais te le prêter parce que c'est le livre de Blandine.
Merci, Blandine. Non, mais je crois que c'est vraiment ça qu'il faut maintenant. C'est arrêter de classifier les gens selon leur genre et de leur coller une étiquette selon leur genre, quoi. Que chacun a le droit d'être qui il est et comme il veut.
Oui, certes, je t'entends, mais c'est en même temps pas si simple que ça.
Non, c'est pas si simple, mais c'est à nous à éduquer nos enfants.
Qui suis-je ?
Pour qu'ils puissent vivre comme ils veulent, quoi.
Oui, oui.
Si ton fils a envie de se mettre des pinces roses dans les cheveux, grand bien lui fasse. Et si ta fille a envie de se raser la tête, elle se rase la tête.
C'est pas très All Blacks, quand même, hein, les pinces roses dans les cheveux, quand même.
Ouais, bah et alors.
Nouvelle-Zélande, je sais pas si ce serait bien vu, quoi, l'école et tout ça. Quoi.
Non, mais justement, en Nouvelle-Zélande, ils ont un gros problème de genre, hein, ça c'est sûr.
Ouais.
Ah bah, les petites filles, on leur colle des robes de princesse et les petits garçons, on les habille en Superman en première.
C'est en même temps, c'est pas une vitrine de féminité, la Nouvelle-Zélande.
Je peux dire que de mon expérience personnelle, les Néo-Zélandaises ne sont pas penchées sur la féminité et la mode. Hein. C'est plutôt quand même à l'origine des femmes.
Je crois qu'il y a des raisons historiques. Il n'y a pas si longtemps, c'était la ferme. Il n'y a pas de grande ville qui est un pourvoyeur du luxe.
Mais c'est très différent entre la féminité et le fait d'aller courir les magasins et tout ça, et le fait d'avoir des rôles très marqués. Et ça, la Nouvelle-Zélande est toujours en train d'avoir des rôles très très marqués. Je veux dire, c'est la plupart du temps, c'est la femme qui arrête de travailler pendant des années
pour s'occuper des enfants. C'est toujours à la mode ici.
Ils ont encore des rôles. Alors les femmes ne sont
pas. Elles en sont assez fières.
Oui, c'est sûr que c'est pas du genre à se trimballer en talons et en chaussures et en robe Dior. Ce côté-là de la féminité n'est pas très présent en Nouvelle-Zélande, mais par contre, le côté mère au foyer et par exemple les hommes que je connais qui s'occupent de leurs enfants se font souvent dénigrer par les autres hommes de Nouvelle-Zélande. Enfin, je veux dire. Enfin, mon Jules qui s'occupe pas mal des enfants a régulièrement des remarques du genre « De toute façon, chez toi, on sait qui porte la culotte, quoi. » Parce que je ne me suis pas arrêtée de travailler pendant 5 ans pour m'occuper de mes
gars. Ouais, je ne sais pas si on a gagné dans quelque chose dans ce système où les femmes portent des bottes en caoutchouc et ne rapportent même pas de thunes à la maison.
Je savais que je venais avoir une émission avec Romain, ça allait me mettre de
l'humeur. Je suis très fier que ma femme gagne plus que moi. Je crois que si elle gagnait moins que moi, elle perdrait dans mon estime.
Je veux dire que chacun fait, enfin, qu'on laisse à chacun la liberté de pouvoir rester à la maison s'il en a envie, homme ou femme, ou de travailler et de payer quelqu'un pour garder ses enfants s'il en a envie. À chacun son choix.
Son choix, mais je pense que c'est difficile. J'ai des exemples à t'opposer d'hommes qui ont fait ce pari-là d'être homme au foyer
et qui se font dénigrer.
Et c'est très très dur.
Ah, je sais, ouais. mais d'un autre côté, c'est super bien pour les enfants.
Il faut que ça change, qu'on
arrête de les emmerder, quoi. Mm-hmm. Ah ben c'est sûr que Steph, quand on a eu un opère, un gars à un moment donné, ben il y a plein de gens qui se demandaient si c'était pas homo, quoi, parce qu'on voyait jamais de femmes.
Ah ouais. Mais enfin, en tant que Français, je trouve quand même que les Françaises, les Européennes, sont quand même vachement plus classe. Sans parler de la mode Christian Dior et tout ça, sont plus classe que.
Mais ça, c'est différent. C'est un côté. C'est vrai qu'ici.
Oui, on peut parler. Je suis d'accord avec toi. On peut parler élégance sans parler de teint haut.
Élégance n'a rien à voir. Tu peux être féministe et élégante.
Heureusement.
Ouais.
Oui. Tu peux être féministe et aimer les beaux vêtements, être habillée sexy, ça n'a rien à voir, quoi.
Tu peux être féministe comme moi et aimer les blagues de cul, tu vois.
Ouais, mais sans parler d'être sexy, élégante dans la façon de parler, dans la façon au niveau culturel, dans l'éducation.
De jouer avec ses cheveux en cherchant ses phrases.
Aussi, par exemple, il faut savoir que jusqu'à pas longtemps, en Nouvelle-Zélande, il y avait très très peu de magasins. Moi, tous les gens que je connais de mon âge, et un peu plus vieux, la plupart, elles cousaient, parce que sinon, tu trouvais pas beaucoup de vêtements, quoi. Il y avait Farmers.
C'était Elisabeth de la radio qui nous disait que quand elle était arrivée ici dans les années 70,
tout le monde cousait.
C'était encore les années 50.
Ouais, tout le monde cousait parce que c'est Farmers et puis c'était tout. Et Farmers, comme son nom l'indique, c'était pour les fermiers. Donc c'était pas un grand choix.
C'est ça. Mais en plus, maintenant, toutes les jeunes femmes ont des tatouages de partout. Hein. Ça, les jeunes femmes, puis les.
Oh, c'est passé, ça dure encore?
Je crois qu'il y aura
un sacré business à faire dans l'enlèvement de
tatouages.
Ouais, l'enlèvement, je sais pas si les gens vont les enlever, mais
c'est ridicule.
C'est horrible, hein. Moi, je trouve ça personnellement, je trouve ça horrible.
Ah, moi, ça dépend. Je trouve qu'il y en a certains qui sont jolis, ça dépend.
Ça trahit quand même un sacré défaut d'éloquence. Pourquoi avoir
ça dépend.
Écrire de façon indélébile sur son corps.
Je suis d'accord avec toi.
Mais t'es pas obligé d'avoir écrit quelque chose.
Que ce soit un symbole, que ce soit une phrase, c'est de toute façon forcément limité, incroyablement limité, et ça va durer. C'est là à jamais.
Bon, on parle pas des tatouages polynésiens qui sont culturels, qui sont générationnels, mais plutôt de la nouvelle mode.
Et encore, j'ai un oncle par alliance qui est maori et qui se plaigne, que j'ai entendu se plaindre que la jeune génération de maori porte, comment dit-on, sa maoritude à l'extérieur, sur la peau, alors qu'il devrait l'avoir. Qui parle pas un mot de maori.
Ouais,
tu vois.
Ça, c'est
quand même. Mais faut dire que la jeune génération, ils sont couverts de tatouages. C'est la mode, elle est pas passée. Hein. C'est C'est de pire en pire, quoi, dirons-nous.
Nous, je crois que la moitié de nos opères, ils y sont passés. Hein.
Allez, en parlant de mode, on va écouter Françoise Hardy qui chante Oh Oh Chérie. C'est toujours extrait de la bande originale de Vernon Subutex. C'est bon. Ah, mais la soundtrack, l'accompagnement musical.
Oh Oh Chérie, oui, j'aime tout ce que tu fais. Oh Oh, même quand tu fais rien, moi ça me plaît. Je suis au ciel dès que j'entends ta voix. Et lorsque tu me regardes comme ça, oh, oh, oh oui, oui, c'est plus fort que moi. J'ai chaud, j'ai froid.
À ce point-là ?
Ouais !
Sans exagération, vraiment.
Ouais, j'aime bien Françoise Hardy.
Ouais, moi aussi j'aime bien Françoise Hardy.
Moi j'aime bien aussi Françoise
Hardy. C'était une femme classe. Je suis sûr qu'elle avait pas de tatouage à l'époque. Hein.
Non, elle a.
Et puis elle est intelligente.
C'est la femme à Dutronc, non ?
Ouais, c'est la femme à Dutronc. Mmh. Enfin, je sais pas, j'aime bien.
Ouais. Ouais. Elle a.
Elle a du caractère. Quoi.
Elle a du caractère. Ouais, elle a. D'ailleurs, c'est ça lui a coûté beaucoup. Elle avait été interdite d'antenne sur Europe 1.
Ah ouais, je
pense les années 90-2000, pour avoir dit des choses qui n'étaient pas dans l'air du temps sur l'immigration, un truc, je ne sais plus exactement.
Mais elle est restée classe, hein.
Ouais.
Tu parlais de Jane Fonda, hors antenne, qui est restée classe aussi. Et Françoise Hardy, je trouve qu'elle est très classe encore.
Mmh. Elle n'est pas morte, hein. Bah non, non, je crois pas.
Bon, élevons le niveau et parlons d'étoiles, d'astronomie, avec deux femmes astronomes. On commence avec Béatrice Tinsley, peut-être.
Voilà, donc Béatrice Tinsley. Alors, en fait, il y a une pièce de théâtre pour l'instant qui se joue par Oakland Life, donc au Enzel Herald Theater. Donc, c'est juste derrière le Civic. Et qui s'appelle Bright Star, qui est une pièce qui a été jouée pour la première fois en 2005 à Wellington pour le Circa Theater. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le théâtre qui est juste devant Tes Papas. J'étais une fois, ils ont l'air de jouer des chouettes pièces, aussi un petit théâtre comme ça. C'est, il me fait penser au Basement Q Theater. Là. Genre, enfin bref, donc c'est une pièce de théâtre Bright Star sur Béatrice Hill Tinsley, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui est en fait une astronome qui est née en 1941 en Angleterre et qui est arrivée en Nouvelle-Zélande peu après la guerre. Donc donc ses parents ont immigré, son père est révérend, vicaire, révérend. Et donc elle a fait ses études de physique à Canterbury, à l'université de Christchurch. Et elle est partie dans les années 60 vivre à Dallas avec son mari qui à l'époque lui avait déjà son doctorat. Et donc, elle a eu son doctorat en 1966 à l'université de Dallas. Et donc, la pièce, c'est le début des années 70, 70 en Belge. Et donc, c'est elle, elle est femme au foyer, elle a deux enfants qu'elle a adoptés. Son mari travaille à l'université de Dallas, il a un poste. Et en fait, elle se bat pour avoir un poste. Elle vient d'avoir un prix. Elle écrit des articles sur sa table de la cuisine. Et donc, en fait, toute la pièce, c'est cette période du début des années 70 où elle discute avec son mari. Elle essaye de me faire des propositions pour ouvrir un département d'astronomie dans l'université de Dallas qui finit par s'ouvrir et donc elle espère avoir une place. Donc enfin c'est fait des années qu'elle essaie d'avoir une place. Donc elle a eu son doctorat en 66 et là on est en 74 à un moment donné dans la pièce et elle attend toujours quoi. Et les discussions entre elle et son mari sont très révélatrices d'une situation, et c'est exactement ce dont on parlait juste avant, c'est qu'en fait à un moment donné dans la pièce son mari apprend qu'elle a postulé pour des postes dans d'autres universités ailleurs, et donc elle, ça fait plus de 10 ans qu'elle est sans emploi, enfin qu'elle travaille dans sa cuisine, qu'elle continue à produire de la science d'excellente qualité puisqu'elle reçoit des prix. Et donc la discussion, c'est si j'ai le poste, est-ce que tu me suivrais ? Et clairement, il comprend pas la question, quoi. Enfin, tu vois et c'est très très bien joué parce que on sent que à l'époque, il voit vraiment pas. Enfin, c'est incongru, quoi, sa question. Et donc elle finit par avoir un poste à Yale en 1974, et donc elle décide de partir. Et elle abandonne son mari et ses deux enfants qui finissent par l'argent. Enfin, sa fille finit par la rejoindre à un moment donné, je pense. Mais donc au départ, elle doit vraiment abandonner sa famille pour pouvoir avoir un poste parce que à Dallas ce sera pas possible, quoi. Il y a aussi un problème religieux qui se mêle, c'est que une partie de sa recherche est sur. Donc c'est une astronome. Qui recherche sur l'âge des étoiles et notamment une des questions sur c'est une théoricienne et une des questions de l'époque c'était de savoir si l'univers était fermé ou ouvert. Donc s'il est ouvert il s'étend indéfiniment et à un moment donné il va mourir. Et donc d'un point de vue religieux c'était une idéologie, enfin une théorie qui était difficile à accepter pour certains religieux, notamment des scientifiques religieux qui avaient décidé que l'univers serait fermé parce que comme ça il se referme et donc en fait il ne meurt jamais.
Ok, en fait il est ouvert.
A priori, oui.
Bonne nouvelle.
Mais il y a peut-être d'autres univers. Donc Béatrice Tinsley part à Yale en 74. En 78, c'est la première femme prof de Yale. Et elle est on lui trouve un cancer de la peau à 39 ans et donc elle meurt à 40 ans. Donc elle a une vie c'est Bright Star, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a étudié les étoiles mais qui a aussi une vie un peu comme une étoile filante. C'était quelqu'un de remarquable qui pour les quelques années où elle a eu le temps de faire de la recherche a posé sa recherche est exceptionnelle, ses résultats sont encore valables maintenant, certaines de ses théories sont encore valables, mais ça a été très court. Et puis aussi au niveau personnel, elle a dû sacrifier énormément à sa science, quoi. Donc, bien. Je vous conseille la pièce. C'est jusqu'au 12 septembre, je crois, donc il reste plus beaucoup de jours. Mais allez voir, ça vaut le coup. Enfin, moi j'ai adoré et en plus vous apprendrez un petit peu sur l'astronomie. Moi j'ai trouvé ça vachement bien expliqué. La fille avec qui je suis, enfin ma copine avec qui je suis allée, trouvait que c'est quand même compliqué à comprendre la science. Mais bon. Voilà.
Donc c'est à Wellington.
Non, c'est ici, à Auckland. Ça a été joué la première fois à Wellington en 2005. Et donc là, il la rejoue maintenant jusqu'au 12 septembre.
On vous mettra les détails dans le blog.
Dans le blog.
On n'a plus de blog.
Il n'y a plus de blog.
Sur notre page Facebook.
Page Facebook.
Et sur Twitter.
Et sur Twitter. Ouais, tu nous avais promis de parler de nous parler de Pulsar ce soir.
Oui, ah, mais ça, c'est l'autre.
Pas assez de Pulsar.
Après la pause musicale, alors.
Ouais, voilà.
Ouais, hein? Alors, un truc.
Pour un hommage à Beatrice Tinsley. Hein?
Ouais, Hill Tinsley.
Voilà, c'était Dead Can Dance.
Non, mais tu nous as promis un son qui épouse le sujet des étoiles du cosmos.
Ouais, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à la musique médiévale. Ça me fait penser au cosmos, je sais pas pourquoi.
Ouais, moi ça me fait plus penser à la Terre.
Ouais.
Ouais.
Bon, c'est un petit intermède musical. C'est vrai que j'aurais pu mettre une chanson. La dernière chanson d'Orchestra Spheres, un groupe de Wellington, qui est très très bien d'ailleurs.
Et en parlant d'étoiles et de du ciel, ce soir, il faut regarder Vénus.
Vénus.
Ah, maintenant, là. Ça se verra bien.
Ah bon?
Vénus. En sortant, on ira la regarder.
Ah ouais, carrément.
Voilà.
Ciel dégagé.
Voilà. Si elle... Bah oui.
Bah, dégagé, elle n'était pas très dégagée aujourd'hui, le ciel. C'est plutôt nuage.
Ah bah non, moi, j'ai jamais vu Vénus.
T'as jamais vu Vénus?
Bah, si, sûrement... même c'était un mythe urbain. Ça, elle existe vraiment?
Mais oui.
Ok.
Je suis sûr que t'as déjà vu Vénus.
Non.
Mais quel rapport avec les pulsars?
Non, j'ai vu Uranus.
Ah ben, c'est dans le ciel.
Ouais, mais c'est quoi les pulsars?
Alors, bon.
Ah ouais, alors voilà. C'est un truc.
Allez voir Vénus, mais.
Non, beaucoup de gens l'emploient dans les conversations, mais je pense.
Mais donc, en fait, les pulsars, leur nom vient du fait que ça pulse. OK. Et donc, il y a un rayonnement électromagnétique très spécifique du pulsar. Qui fait que quand tu observes donc avec les radiotélescopes, il y a un signal très très spécifique d'un pulsar qui est une étoile. Je confonds toujours pulsar et quasar, mais je pense que le pulsar c'est les deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre.
Ah, des pulsars sont des étoiles, c'est pas des choses comme des électrons.
Ah non, c'est un objet céleste, mais qui a un rayonnement électromagnétique très. Donc en fait, ce qu'on appelle les radiotélescopes, imagent le ciel dans les ondes radio et enregistrent ces signaux. Et donc Jocelyn Bell Burnell, qui tout à l'heure, je disais, elle était anglaise. En fait, elle est née en Irlande du Nord, donc elle n'est pas anglaise, désolée. Mais bon, en fait, elle est contemporaine de Beatrice Tinsley. Elle est née en 1943 en Irlande du Nord, mais elle a fait son PhD à Cambridge et elle l'a obtenu en 1967. Et donc l'histoire, c'est que l'histoire dit que donc elle étudiait le signal récupéré, enfin mesuré par un radiotélescope, et il y avait un signal qui était bizarre, qui était là. Et l'histoire dit que son, enfin que c'est vraiment elle qui a persisté pour essayer de savoir d'où venait ce signal qui pulsait dans le signal du radiotélescope. Et donc c'est comme ça qu'elle a découvert les pulsars. Mais l'article a été publié avec son superviseur en premier auteur et elle en deuxième auteur. Et en 1974, son superviseur a reçu le prix Nobel avec Martin Ryle pour le radio. Donc lui, les deux l'ont reçu pour service rendu à l'astronomie. Lui parce qu'il a trouvé, donc Anthony Ewish parce qu'il a trouvé les pulsars et l'autre parce qu'il a fait les radiotélescopes. Et Jocelyn Bell, elle a rien eu. Rien du tout. Voilà. Enfin, elle n'a pas eu le prix Nobel en 74.
Avant de parler de morale, j'aimerais retourner à la pure physique. J'entends qu'un télescope puisse voir, mais comment peut-il ressentir des vibrations ou des pulsations ou,
mais, c'est un radiotélescope. Donc, en fait... OK. Donc... nous, on voit le spectre électromagnétique qui est visible. Okay, donc, il y a une certaine longueur d'onde. Le spectre électromagnétique, tu peux le diviser.
Ce que je comprends, c'est que j'associe la longueur d'onde à l'écoute,
non.
Pas à la vision.
Non. En fait, la lumière, les photons, okay, ils ont une énergie et aussi une longueur d'onde qui te donne la couleur. Donc, par exemple, nous, on voit entre 400 et 800 nanomètres. C'est ce qu'on voit. D'accord. Et puis il y a des ondes plus longues, donc les ondes radio par exemple, c'est plus long. Et donc on a divisé le spectre électromagnétique avec des noms qui en fait la façon dont on les a divisés, c'est en fonction de la façon dont on peut les produire et les mesurer. Donc c'est pas les mêmes instruments qui vont pouvoir les mesurer. Donc par exemple il y a les X-rays, c'est un rayonnement électromagnétique aussi. Les gamma-rays, c'est de plus en plus énergétique, de plus en plus dangereux aussi. Il y a les UV.
Ce sont eux qui Bruce Banner a été exposé des rayons gamma.
Ah bon ?
Et s'est transformé en Hulk.
Ah voilà. Ouais. Bah oui, c'est dangereux.
C'est lui, ouais.
Donc tout ce qui est plus bas que le visible est relativement dangereuse parce que c'est des radiations ionisantes qu'on appelle ça, et tout ce qui est au-dessus du visible, donc il y a des longueurs d'onde plus longues et moins d'énergie, c'est pas ionisant, mais par contre ça permet de transporter pas mal d'informations. Donc il y a les ondes radio qui permettent de transporter de l'information, et donc il y a une partie de l'information
on y est.
Qui est dans donc tous les corps émettent de la lumière, certaines qu'on voit donc du visible, mais certaines émettent de la lumière qu'on voit pas, qui sont dans l'infrarouge, le radio, et donc et on mesure.
Il existe des instruments qui permettraient de voir des ondes radio.
Oui.
Oh, c'était lire.
Enfin, tu les vois, tu les mesures, et puis tu les dessines. Et donc, par exemple, on voit les quarts du ciel dans tous les spectres. Il y a des quarts du ciel dans toutes les parties du spectre dans lesquelles on mesure. Donc, il y a des radiotélescopes qui donc regardent le ciel dans cette partie-là de la couleur. Enfin, dans cette partie-là du spectre électromagnétique.
Et les micro-ondes, est-ce que ça fait partie des...
Oui.
Est-ce que c'est dommageable pour notre santé?
C'est différent, ça.
C'est ce qu'on voudrait savoir, parce que
ça chauffe l'eau, c'est tout. Mais c'est pas dangereux. Micro-ondes, ben, par exemple, la radiation du corps noir, c'est comme ça qu'on a pu voir. Donc il y a une radiation à 3 Kelvin, et c'est notamment en la mesurant qu'on a pu, on a pu mesurer l'âge de l'univers.
Et en parlant des ondes aussi, alors nos téléphones portables.
Non.
Les téléphones portables, c'est des ondes aussi. Des ondes électromagnétiques, ou je ne sais pas comment on appelle ça.
Mais c'est toutes les ondes sont des ondes. Enfin, c'est des ondes électromagnétiques.
Donc les téléphones portables, en fait, il y a certaines recherches qui ont lié l'apparition de tumeurs du cerveau à des gens qui utilisent le téléphone portable près de l'oreille.
Tu vas être privé d'internet, toi.
Ça, c'est vrai.
Deux semaines, plus d'internet.
Ils ont jamais. Enfin, je sais pas. J'ai pas lu les articles. Je sais pas. Honnêtement, ça me paraît. Parce que
pour les gens commerciaux qui étaient tout le temps avec le téléphone à l'oreille,
Tu parles des adolescents.
Parce qu'on est baigné d'ondes. Hein. On est baigné d'ondes. Hein. Il n'y a pas que les téléphones.
Les ondes Wi-Fi.
Aussi. Mais c'est infime l'énergie qu'il y a là-dedans.
Je te demande, hein, puisque.
C'est par rapport à ce qu'on reçoit.
On a l'occasion d'avoir une experte en la matière.
Mais bon, Jocelyn Bell, quand même. Je peux retourner à Jocelyn Bell.
Et c'est elle qui a fait les.
C'est elle qui a découvert, qui a persisté dans la compréhension de ce signal qui pulsait dans son signal. Et qui a donc découvert avec son superviseur les pulsars, mais qui n'a pas reçu le prix Nobel en 1974. Par contre, elle a reçu le prix Béatrice Tinsey en 1986, ce qui est quand même un peu. La raison pour laquelle j'en parle maintenant de Jocelyn Bell, c'est parce que en fait, elle vient de recevoir un prix de 3 millions de pounds. Donc c'est plus que le prix Nobel.
Pour la Nissan.
Non, elle vient de le recevoir pour Breakthrough Prize in Fundamental Physics. Donc elle vient de le recevoir cette semaine et elle a tout donné pour
le gouvernement.
Non, pour que to stop bias against women in science. Donc voilà.
Oh.
Elle a tout donné. 3 millions de pounds.
À 3 millions de dollars, ces prix-là, ces récompenses sont pour eux. Ils ne servent pas à leur recherche.
Non, le prix Nobel aussi, ils choisissent.
Alors, c'est intéressant que tu parles du prix Nobel, parce que, juste une petite parenthèse, le prix Nobel, il y a aussi Bob Dylan qui l'avait reçu.
Oui.
Et je suis allé à son concert. Et ce qui était intéressant, je fais une petite parenthèse, le concert de Bob Dylan qui est venu en Nouvelle-Zélande à l'âge de 77 ans, il avait banni tout photographe et tout téléphone portable. Il y avait des annonces dans Spark Arena. La première personne qui est en train de prendre des photos ou en train de texter à qui que ce soit pendant le concert sera virée de la salle. J'ai trouvé ça très bien. Et ce qu'il a fait aussi, c'est que la lumière, la mise en scène était très basique, avec quelques lumières, pas plus. Contrairement à des artistes sans talent comme Pink qui basent tout sur la danse et les lumières, quoi. Donc Bob Dylan, c'est intéressant d'aller à son concert.
C'est autre chose.
C'est différent. Bon,
si j'allais à un concert de Pink, quelle que soit la qualité des paroles et qu'il n'y ait pas de chorégraphie, qu'il n'y ait pas de laser, qu'il n'y ait pas de
Pink.
Je ne connais pas.
Bon, tu perds rien. Hein. Mais bon, Bob Dylan, les gens ont applaudi parce qu'ils étaient forcés, parce qu'il n'a aucune communication avec le public et il s'en fout complètement de savoir ce que les gens pensent de son concert. Il fait ce qu'il a envie de faire.
Il est parti très peu généreux sur scène.
Oui, il a joué deux heures. Il a retravaillé des morceaux comme Blowing in the Wind de façon totalement différente d'ailleurs. Et je trouvais que c'était un très bon concert.
Et sa voix, elle se tient ?
Ouais. Par contre, il ne peut plus jouer de guitare parce qu'il a de l'arthrite. Donc, il a joué du piano. Donc, certaines personnes étaient assez déçues de ne pas le voir jouer de la guitare. Donc, il a joué du piano. Mais bon, Dylan, 77 ans, Paul McCartney, 76. On se souvient de Prince qui est passé en Nouvelle-Zélande, il est mort peu après. On se souvient de Leonard Cohen qui est passé aussi en Nouvelle-Zélande et est mort peu de temps après.
Comment ça s'appelle une parenthèse à l'intérieur de la parenthèse ?
Je ne sais pas.
Ouais.
Des guillemets, des guillemets.
Je ne sais pas.
J'ai mis des guillemets.
Et donc, Béatrice Tinsley. Béatrice Tinsley, maintenant, je les confonds maintenant. Jocelyn Bell. Donc, en fait, elle a été de passage en Nouvelle-Zélande. Elle a été interviewée par Kim Hill, si vous voulez écouter son interview. Stardust, ça s'appelle d'ailleurs, et je l'ai rencontrée, Jocelyn Bell. Je lui ai même parlé et tout, et c'est une femme extraordinaire. Vraiment, enfin, c'est quelqu'un qui aurait eu toutes les raisons d'être aigrie, fâchée, et elle a toujours défendu la situation en disant bon, ben, j'étais qu'une étudiante. Et en plus, elle dit que pour finir, elle s'en est bien sortie parce que Elle le prend avec un peu avec une pincée de sel, c'est qu'elle dit que pour finir, le fait qu'elle a pas eu son prix Nobel fait qu'elle a peut-être été quelque part plus célèbre que celui qui a eu le prix Nobel et qui n'a rien dit aussi quand même. Je trouve qu'il aurait pu dire quelque chose, même si c'était lui le superviseur. Je pense que
donc elle est irlandaise. Irlandaise à la base.
Elle est irlandaise, mais l'histoire a quand même prouvé qu'elle avait un sacré cerveau. Et qu'elle a continué à avoir une carrière exemplaire.
Elle a fait des livres. Elle a écrit des livres.
Bah, elle a écrit des papiers. Elle a été prof de physique. Et maintenant, je pense qu'elle est retraitée. Mais elle a aussi pas mal œuvré pour. Elle a pas mal participé à ce qu'on appelle Athenas One, qui est en fait une accréditation que les universités du Royaume-Uni peuvent recevoir s'ils peuvent prouver que ils essaient d'avoir une politique de diversité pour l'inclusion des femmes dans les universités, donc de faire attention notamment que dans les panels les gens font un training pour pas être biaisé et toutes ces choses là donc elle a pas mal milité parce que elle a quand même un peu souffert du fait que sa carrière aurait pu avancer plus vite si elle avait pas été une femme, je pense, tout comme Béatrice Tinsley, en fait.
Oui, mais nous n'en parlerions pas ce soir, ce qui est une forme de gloire en soi.
Merci Fred d'être venu parler de.
Oui, mais je pense que
si elle était un bonhomme, on n'en parlerait pas.
Mais je pense
qu'il
y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas réussi à survivre et qu'il y a des hommes médiocres qui s'en sont sortis. C'est là qu'est le problème, c'est que ces deux-là, elles sont quand même supérieurement intelligentes. Il faut être beaucoup plus intelligent, enfin à cette époque-là surtout, pour une femme pour s'en sortir et beaucoup plus tenace qu'un homme. Et donc il y a quand même des hommes médiocres qui ont eu des places permanentes dans les universités et des femmes vachement
tu peux nous donner
intelligentes
des noms,
ou... qui ont fini par craquer. Bah, Béatrice Tinsley, elle a été à deux doigts de ne pas la prendre sa place à Yale quand même. Elle a quand même dû abandonner sa famille pour pouvoir avoir une place, pour pouvoir enfin faire le boulot qu'elle avait envie. Donc,
très bien, Fred, merci.
Voilà.
Donc lisez ces livres.
Non, merci Fred de nous avoir fait découvrir donc Béatrice Tinsley.
Et les Pulsars.
Et Jocelyne Bell et les Pulsars.
Et, voilà, et vous avoir expliqué vraiment très très mal le rayonnement électromagnétique.
Et qu'on pouvait prendre une émission de radio en photo, ça je ne savais pas.
Mais, bah oui, tu peux faire en photo.
Dommage qu'ils n'ont pas l'image, hein, parce que là on a toute la jeunesse rassemblée ce soir.
Oh, nous sommes la jeunesse et la beauté, ouais. Je le répète à chaque fois.
Voilà. Ah. Mais... Donc allez voir la pièce, il y a encore quelques jours.
Et je vous mets tous les détails sur notre page Facebook, c'est promis. Merci beaucoup Fred, merci Yvan.
Bonsoir.
Merci Caroline qui était d'une gentillesse et d'une patience incroyable.
La fille,
tu mérites le prix Nobel de la patience.
Très créatrice.
Et on écoute créative. Un dernier extrait de Vernon Subutex, c'est Noir Suprême NTM qui chante Blanc et Noir. À la semaine prochaine, merci, à bientôt.
La différence ne se voit que dans les yeux des bâtards. Différence éthique, alliance de culture. Voilà les raisons de notre progrès sous ces sujets. L'esprit clairvoyant et les yeux bien ouverts. Car j'aspire, j'espère, mais qu'avoir à faire taire dans l'instant tous les soi-disant prophètes. Les propagateurs, adulateurs d'une race parfaite. C'est clair et net, la démonstration est faite. 10% pour le fait, nos élections c'est une défaite. En fait, prends ça dans ta face, quelle que soit ta race. Blanc et noir, noir et jaune, jaune et rouge, rouge au beurre. Je m'adresse à la jeunesse, elle qui se dresse sans cesse. Sans plan d'écran face au dictateur dont l'empreinte est une offense. Pour ce monde qui avance, je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire.
Blanc et noir, ça arrive à revoir.